VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 28 septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington. Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir affirme avoir déjoué mardi une tentative de coup d'État. Au Mali, des partis s'insurgent contre le report de la présidentielle censée ramener les civils au pouvoir. Au Gabon, le premier ministre de la transition espère un dialogue national entre avril et juin, près d'un mois après le putsch contre le régime Bongo. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, tense à Luanda les putschistes en Afrique. Ici aux États-Unis, deuxième débat républicain pour la présidentielle de 2024, de nouveau éclipsé par le grand favori de ses primaires, Donald Trump au Michigan. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, le gouvernement a confirmé hier mercredi une tentative avérée de coup d'État déjouée mardi. Des officiers et acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation sont aux arrêts, a annoncé le gouvernement qui a annoncé que d'autres sont activement recherchés. Plus tard, après le communiqué du gouvernement sur cette tentative avérée de coup d'État, le tribunal militaire a annoncé avoir interpellé 4 officiers. 2 sont en fuite, selon le parquet militaire. Notre correspondant Lamine Traoré à Ouagadougou suit ces événements de près pour nous. Les États-Unis vont continuer de soutenir les armées dirigées par des civils en Afrique. C'est ce qu'a déclaré mercredi à Luanda le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin, blâmant les militaires qui, sur le continent, ont renversé la volonté du peuple à la faveur de coups d'État. Rosine Mounezero.
Quand les généraux renversent la volonté du peuple et mettent leurs propres ambitions au-dessus de l'état de droit, la situation sécuritaire se dégrade et la démocratie meurt, a déclaré M. Austin dans un discours sur les partenariats de sécurité des États-Unis en Afrique, prononcé à Luanda, la capitale angolaise. Le secrétaire à la Défense a réitéré l'engagement des États-Unis à soutenir des politiques gouvernementales qui font avancer ensemble la paix, la sécurité et la gouvernance démocratique, soulignant que ces éléments sont inséparables. L'Afrique a besoin d'armées au service de ses citoyens, pas l'inverse, a-t-il ajouté. La visite de M. Austin en Angola, une première pour un secrétaire américain à la Défense, constitue la troisième et dernière étape de sa tournée africaine après Djibouti et le Kenya.
Au Mali, plusieurs formations politiques se sont indignées de la décision de la junte de reporter une nouvelle fois l'élection présidentielle sans fixer de nouvelles dates. Claire Morin-Gibourg.
Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a dénoncé hier une décision unilatérale et affirmé l'impérieuse exigence de respecter les engagements de la part de la junte. La Ligue démocratique du changement a dit sa grosse déception. Elle désapprouve et condamne sans équivoque cette tentative de prise en otage de la démocratie malienne. Pour le parti Yelema, le report n'a fait l'objet d'aucune discussion et insiste sur le manque d'anticipation, l'incompétence des autorités et leur refus d'honorer leurs engagements. Enfin, l'organisation d'élections est une question de volonté politique selon le PARENA et certaines des raisons techniques évoquées pour justifier ce report pouvaient être évitées. L'ancien ministre de la Justice, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, a souligné sur les réseaux sociaux que le pouvoir tente de maquiller sa faute et son incapacité à régler les affaires publiques. Le report de la présidentielle est un défi supplémentaire lancé à la CEDEAO. Celle-ci n'a toujours pas réagi officiellement, alors qu'elle n'a cessé depuis 2020 de faire pression sur la junte pour un retour des civils au pouvoir.
Et au Gabon, le premier ministre de transition dit espérer qu'un dialogue national va se tenir entre avril et juin, près d'un mois après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis 14 ans. Le point avec Michel Joseph.
Le chef du gouvernement de la transition, Raymond Dong Sima, a annoncé hier à Libreville le lancement d'un appel à contribution la semaine prochaine auprès de toutes les catégories de la population, prélude à l'organisation d'un dialogue national qu'il souhaite voir se tenir entre avril et juin. Jeunes, seniors, secteurs publics et privés, tout le monde a quelque chose à dire, notamment à propos de la refonte du système politique et des institutions, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse, estimant qu'il faudra donner entre 45 et 60 jours pour que les gens écrivent un papier sérieux. Concernant la première phase du recueil des contributions, il n'a pas donné de calendrier précis, mais espère proposer un document de synthèse fin janvier. Il a déclaré « Si j'ai 50 contributions, on peut faire la synthèse en 30 jours maximum. S'il y en a 500, ça prendra un peu plus de temps, renvoyant au dialogue national le soin de fixer le calendrier de la transition. »
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau débat télévisé tendu mercredi soir ici aux États-Unis. 7 candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés sur plusieurs sujets. Leurs critiques les plus acerbes étaient principalement réservées à Donald Trump, le favori de ces primaires républicaines, qui était notablement absent de la soirée, Eric Manirakidza.
Les candidats ont débattu pendant 2 heures avec des échanges parfois chaotiques, se concentrant sur des questions économiques, l'immigration et l'aide à l'Ukraine. Ils ont critiqué le bilan du président démocrate Joe Biden. L'ancien vice-président Mike Pence a souligné les conséquences de la politique climatique de Biden sur l'industrie automobile de Detroit. Cependant, la majeure partie du débat a tourné autour de Donald Trump avec ses rivaux le taclant pour son absence. Chris Christie, ex-gouverneur du New Jersey, a déclaré, pointant vers la caméra, je cite, « Donald, je sais que tu nous regardes », insinuant que Trump avait peur de participer à ce débat télévisé. À 4 mois des premières primaires, Trump continue de dominer la course, malgré ses inculpations pénales, restant très populaire parmi les républicains. Trump a axé ses attaques sur Joe Biden, les deux rivaux se livrant à un duel dans le Michigan, un état crucial pour la présidentielle de 2024.
États-Unis toujours, le sénateur du New Jersey, Bob Menendez, a plaidé hier non coupable de corruption devant un tribunal fédéral de New York, où il a comparu avec son épouse Nadine Arslanian dans une affaire de corruption impliquant l'Égypte. Nathalie Barge.
Le parlementaire démocrate Bob Menendez, président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a été inculpé pour corruption. Il est accusé d'avoir accepté entre 2018 et 2022 des centaines de milliers de dollars de la part de 3 hommes d'affaires du New Jersey et d'avoir utilisé son pouvoir pour les enrichir et soutenir le gouvernement égyptien. Le procureur fédéral de Manhattan, Damian Williams, avait détaillé la découverte lors d'une perquisition du FBI de liasses de billets, 3 kilos de lingots d'or et une voiture de luxe, présentée comme des éléments de preuve. L'élu d'origine cubaine a contesté les faits lors d'une conférence de presse lundi, disant que depuis 30 ans, il a retiré des milliers de dollars en liquide de son compte épargne personnel, qu'il a gardé en cas d'urgence en raison de l'histoire de sa famille, confrontée aux confiscations et saisies à Cuba. Accusé par la justice américaine d'avoir favorisé le gouvernement égyptien lors de ventes d'armes, Bob Menendez a rappelé qu'il avait interpellé directement le président Al-Sisi sur les atteintes aux droits humains et les détentions arbitraires. M. Menendez a déjà été mis en examen pour corruption en 2015, mais son procès a été annulé en 2017, faute de verdict unanime des jurés. Et en 2018, le ministère de la Justice, sous l'administration Trump, avait demandé à un juge d'abandonner toutes les poursuites contre lui.
Les États-Unis ont récupéré mercredi leurs soldats relâchés par la Corée du Nord, qui est en bonne santé, au terme d'une intense séquence facilitée par la diplomatie suédoise et la Chine, selon des responsables. Pour autant, Washington ne voit aucune percée diplomatique avec Pyongyang, malgré ce retour inopiné du soldat américain Travis King, dont la défection en juillet dernier avait inquiété les États-Unis au plus haut niveau. Monsieur King devait rentrer aux États-Unis après avoir eu des ennuis avec la justice sud-coréenne et retourner dans son pays pour faire face à des sanctions disciplinaires. Mais le 18 juillet, le soldat a traversé la frontière avec le Nord en se mêlant à un groupe de touristes qui visitaient la zone démilitarisée séparant les deux Corées. Pyongyang dit l'avoir expulsé. La Minuteco, Nanit Talani.
Air Sénégal et Royal Air Maroc ont signé ce mercredi un protocole d'accord pour un partage de codes et d'autres mesures visant à approfondir la coopération. Selon Dakar, l'accord vise à augmenter les correspondances et à offrir plus d'options aux passagers. Les autres domaines de coopération comprennent la maintenance, l'affrètement et la manutention des avions. C'est une volonté de développer le transport de passagers et de fret, a déclaré le PDG d'Air Sénégal, Alioune Badara Fall. La Tunisie sera capable d'exporter entre 5,5 et 6 millions de tonnes d'hydrogène vert vers l'Europe à l'horizon 2050, assure Belhassène Chiboub, directeur général au ministère de l'Énergie. La seule condition est que Tunis hisse sa production d'électricité propre de 3% actuellement à 35% comme promis pour 2030. Pour terminer, Total annonce des résultats positifs sur un puits d'exploration en Namibie, soutenant que d'autres puits d'évaluation et perspectives seront forés. Le groupe français assure aussi qu'il prévoit de distribuer environ 44% de son flux de trésorerie aux actionnaires en 2023, avec un objectif de plus de 40% au-delà de 2023. Il prévoit aussi d'accroître sa production de pétrole et de gaz de 2 à 3% par an au cours des 5 prochaines années.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Maroc va accueillir la CAN 2025, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, celle de 2027.
Oui, c'est ce qui est ressorti hier d'une réunion du comité exécutif de la CAF au Caire en Égypte. Depuis la capitale égyptienne, notre consultant sportif Amin Birouk revient sur le film de ses différentes attributions.
Le verdict attendu ? La victoire du Maroc pour l'organisation de la CAN 2025 après le retrait de l'Algérie et les retraits conjugués de la candidature commune Nigeria-Bénin et celle de la Zambie en début de matinée. Jamais le royaume chérifien n'a tremblé et jamais les représentants du royaume du Maroc, à savoir le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzir Kja, n'a douté de la victoire de son pays. Lui qui a mené le Maroc vers tant de batailles et qui espère voir son pays également remporter l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Un verdict qui devrait être livré fin 2024. Et puis il y a eu la surprise de la candidature tripartite Kenya, Ouganda, Tanzanie, qui a obtenu la majorité des suffrages et ça du comité exécutif de la CAF au détriment de la candidature sénégalaise qui était partie un peu tard, de la candidature par ricochet du Nigeria et du Bénin qui s'est retirée de 2025 et qui s'est projetée vers 2027 et puis de ce combo entre le Botswana et la Zambie de toute dernière minute et qui semblait pouvoir obtenir une bonne partie des suffrages sous la pression de la zone COSAFA. En tout cas, on attendra peut-être la plus belle des Cannes au Maroc en 2025, ce sera au mois de juillet, quelques jours après la fin de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en juin 2025 aux États-Unis. Depuis le Caire, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Merci Amin, nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
Ici en NBA, Damian Lillard rejoint Milwaukee.
Le joueur vedette de Portland quitte sa franchise de toujours pour rejoindre les Bucks. Selon plusieurs médias américains, Damian Lillard avait indiqué en juillet sa volonté de quitter Portland, affichant une préférence pour le Miami Heat. Mais ESPN ou encore The Athletic annoncent le meneur américain de 33 ans aux Bucks. Il devrait y former un duo d'étoiles avec Giannis Antetokounmpo, deux fois élu meilleur joueur de la saison régulière en 2019 et 2020 et sacré champion NBA en 2021.
Shooter très adroit, réputé pour sa fiabilité lors des dernières secondes de rencontre très serrées, Lillard cumulait l'an dernier 32,2 points de moyenne et 7,3 passes décisives en 58 matchs, mais avait manqué la qualification en play-off pour la deuxième saison consécutive.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les États-Unis ont annoncé mardi soir suspendre une partie de leur aide au Gabon. Dans le cas du Niger, les Américains sont restés prudents dans leur attitude face aux nouvelles autorités militaires de Niamey. Toujours dans le cas du putsch nigérien, la France, elle, a dit appuyer la CDAO qui menace d'utiliser l'option militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Comment expliquer les approches américaines et françaises? Yacouba Ouédraogo a posé la question à Souleymane Béchir Diagne, professeur de philosophie à l'Université de Columbia à New York.
Oui, c'est un principe et ce principe dépend précisément de l'expression coup d'État. Est-ce que cette expression est prononcée ou pas? Alors, selon que les États-Unis déclarent qu'il s'agit d'un coup d'État, leur principe leur fait automatiquement suspendre l'aide à cet État. Donc, en revanche, tant que l'expression de coup d'État n'est pas prononcée, dans ce cas-là, évidemment, il y a encore une ouverture possible sur ce plan.
Et justement, dans le cadre du Gabon, on n'a pas entendu les États-Unis qualifier la situation de coup d'État. Est-ce que cette suspension de l'aide signifie désormais qu'ils admettent que c'est un coup d'État?
C'est le cas. En effet, aujourd'hui, prendre la décision de suspendre l'aide, c'est une reconnaissance du fait que la situation ne peut pas porter d'autre nom que celui de coup d'État. Parce qu'après tout, quelle est la définition d'un coup d'État? C'est la suspension de l'ordre constitutionnel.
On a vu les États-Unis assez prudents dans le cas du Niger. Les Français, justement, avaient dit vouloir appuyer la CDAO pour un coup de force pour établir Bazoum dans ses fonctions, alors que les États-Unis appelaient beaucoup plus à la diplomatie. Comment expliquer les deux approches différentes des États-Unis et de la France dans le regard qu'ils portent sur les coups d'État?
Si on essaie de voir quel est le contraste et quelle est la différence entre les deux situations, force est de reconnaître que les États-Unis ont une base militaire au Niger, une base qui est importante pour la lutte dans laquelle ce pays est engagé. Et il y a une dose de réel politique dans la décision de ne pas prononcer l'expression de coup d'État, qui ferait encore une fois obligation d'une action de suspension de l'aide, etc. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les États-Unis continuent à garder une attitude très prudente vis-à-vis du Niger. Effectivement, c'est un contraste avec la France, qui elle aussi est présente militairement, et la France qui est montée au créneau pour dénoncer le coup d'État, pour exiger dans un premier temps le rétablissement de l'ordre constitutionnel et le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions. Et puis maintenant, la France s'est rendue à l'évidence et a pris la décision de retirer ses troupes et de rappeler son ambassadeur.
Vous parliez de soldats américains au Niger. Ils sont autour de 1100 soldats. On sait aussi que pendant le coup d'État, juste après, disons, les États-Unis ont envoyé leur ambassadrice à Niamey, même s'ils disent ne pas reconnaître les nouvelles autorités militaires. Comment comprendre cela?
Un coup d'État, par définition, installe toujours une situation de fait. Cela veut dire donc que le simple réalisme commande de parler aux autorités de fait qui sont installées, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des assurances à avoir concernant leur présence militaire. Donc, c'est une situation de fait dont il faut tenir compte, tout en faisant en sorte que ça ne soit pas une expression publique de la reconnaissance du coup d'État. Une gymnastique assez difficile à faire, mais c'est ce que font les États.
Le professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Jacques Aristide avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, nous nous intéressons au retrait annoncé des troupes françaises du Niger. Après plus d'une décennie de présence dans ce pays clé dans la lutte contre le djihadisme au Sahel, comment la France gérera-t-elle ce départ massif et complexe dans un contexte tendu avec le régime militaire de Niamey à la suite du coup d'État du 26 juillet? Quels sont les enjeux, les défis et les implications pour la région? Quel rôle pour les autres partenaires internationaux comme les États-Unis ou l'Allemagne qui ont également des forces sur place? Rendez-vous ce jeudi à 19h15.
La junte au pouvoir au Mali a annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024. Les dates initialement prévues du 4 et 18 février 2024 connaîtront un léger report pour des raisons techniques, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Modibo Dambélé a recueilli la réaction de Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali.
On s'y attendait, parce que le gouvernement, il y a 2 mois, a réuni les partis politiques pour leur demander leur avis par rapport aux élections, alors que le chronogramme avait déjà été établi et puis les choses allaient à leur rythme. Après, les partis ont donné leur opinion sur le fait qu'il faut essentiellement se focaliser sur les présidentielles. C'est que le gouvernement a accepté, c'est une bonne chose. Seulement, le plus important dans tout ça, c'est que on se parle, on se concerte. Nous avons tous quelques expériences en matière électorale. Nous demandons à nos autorités de travailler avec les partis politiques pour régler la question du NINA, du RAVEC et du fichier électoral et régler la question des réformes. Ce sont les 2 raisons que le gouvernement a avancées pour que le report puisse se faire en quelques semaines ou en 1 mois ou en 2 mois, c'est ce que je pense. C'était très peu probable qu'on tienne le délai du 4 février pour les présidentielles. Aujourd'hui, regardons de l'avant. Et essayons de voir avec le gouvernement comment travailler afin que le terme léger report, c'est le gouvernement qui l'a employé, puisse être vraiment un léger report et un dernier report.
Depuis un certain temps, nous assistons à la recrudescence des attaques. En tant qu'ancien premier ministre qui est allé à Kidal, quelles sont vos propositions de solutions au niveau de Yelema par rapport à cette violence?
Nous appelons à la paix, à la stabilité et surtout aux discussions entre le gouvernement et les signataires de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger est le cadre dans lequel nous avons obtenu le cessez-le-feu et le cadre dans lequel nous avons obtenu l'arrêt des belligérances entre les groupes armés et le gouvernement depuis 8 ans. Depuis le départ annoncé de la MINUSMA, on a dit attention, les départs de la MINUSMA vont laisser face à face les forces armées maliennes et les groupes signataires, il risque d'y avoir des confrontations, surtout par rapport aux emprises, aux camps que la MINUSMA occupe. Donc, ça n'a pas été suivi d'effet et il s'est passé ce qui s'est passé à Ber et ensuite il y a eu des confrontations à Bamba, à Bourem et ensuite à Léré récemment. Il faut que le gouvernement d'une part et les groupes armés comprennent que quelle que soit la confrontation armée, une guerre mondiale ou une guerre locale, ça se termine toujours par des discussions. Donc, ça ne sert à rien de verser des sangs des innocents maliens, de détruire des biens, de détruire le pays qui est déjà dans les difficultés pour ensuite s'asseoir et parler et discuter. Nous pensons qu'il faut que les Maliens, et c'est d'ailleurs ce que le gouvernement dit, c'est ce que les groupes armés disent, qu'on pratique et qu'on concrétise ce qu'on dit par s'asseoir et se parler. Comment le départ de la MINUSMA, de Kidal prochainement, d'ailleurs, à Guelok et ailleurs, puisse se traduire par plutôt une pacification, une présence de nos forces armées, mais aussi une collaboration avec les groupes armés. Je suis sûr que si on s'assied, on se parle sincèrement, on peut trouver une solution à ces questions.
Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
Au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir depuis l'an dernier a déclaré mercredi avoir déjoué la veille une tentative de putsch menée par des membres des forces de sécurité et des services du renseignement sans donner de détails sur la situation. Dans un communiqué, elle a fait savoir que plusieurs officiers ont été arrêtés et que d'autres suspects liés à cette mutinerie étaient recherchés. La veille, mardi soir, plusieurs centaines de partisans du président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'étaient rassemblés dans le centre de la capitale Ouagadougou après des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état de tensions au sein de l'exécutif. Au lendemain de ces manifestations, Mohamedou Houmfa a joint hier, sur place, notre correspondant Lamine Traoré qui fait le point.
Oui, c'est une journée ordinaire ici à Ouagadougou, au lendemain d'une nuit mouvementée, on le dira. Les services et les commerces ont fonctionné normalement. Il n'y a pas véritablement eu de rassemblement ce mercredi à Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, c'est aussi le même constat ainsi que dans les autres villes de Burkina. À Ouagadougou, même s'il faut signaler quelques sporadiques klaxons de motos et des sons de vuvuzela, ça et là, de certains partisans du pouvoir, c'est une journée calme et tranquille ici.
Est-ce que les autorités de la transition réagissent aux rumeurs, à ces manifestations? Est-ce qu'on sait comment va le capitaine Ibrahim Traoré?
Oui, une façon voilée, on pourrait le dire, hein. Le capitaine Ibrahim Traoré a, dans son compte X, anciennement Twitter, fait une réaction. Il a rassuré de sa détermination à conduire la transition à bon port, en dépit, dit-il, de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper la marche inexorable du pays vers une souveraineté assumée. Ma conviction se forge à chaque pas franchi dans la reconquête de notre cher patriote, a dit le président Traoré, et de remercier l'ensemble des Burkinabés qui assurent continuellement la veille citoyenne, gage d'une réussite collective, a-t-il terminé. Mamadou Nfa, les rumeurs de coups de force se sont multipliées ces derniers temps au Burkina. Depuis septembre, 3 militaires des sous-officiers ont été inculpés, placés en détention préventive pour complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui, selon le parquet militaire.
Eh bien, c'était notre correspondant Lamine Traoré, joint mercredi à Ouagadougou par Mohamedou Houmfa, au lendemain d'une manifestation pro-Ibrahim Traoré.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Maroc va donc accueillir la CAN 2025, c'est ce qui est ressorti d'une réunion hier du comité exécutif de la CAF au Caire, en Égypte. En concurrence au débat, au départ avec l'Algérie, la candidature commune Bénin-Nigeria et la Zambie, le royaume chérifien s'est retrouvé seul mercredi car les autres ont retiré leur dossier. Pour la CAN 2027, la candidature commune Kenya-Ouganda-Tanzanie a été retenue devant le Sénégal, le combo Zambie-Botswana et le duo Bénin-Nigeria. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
En lice, pour co-organiser la Coupe du Monde 2030, le Maroc va se servir de la CAN 2025 pour démontrer au monde sa capacité à accueillir l'événement avec l'Espagne et le Portugal. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, soutient que le choix du Maroc par acclamation exprime la volonté du continent africain de s'unir derrière le royaume chérifien pour le Mondial 2030.
Le Maroc dépense beaucoup d'argent, en partie pour 2025. Mais nous avons aussi dit que la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2030 n'est pas seulement une candidature pour le Maroc. Il ne s'agit pas juste d'une candidature pour le Maroc comme pays, c'est une candidature pour toute l'Afrique.
Le Maroc va organiser la CAN pour la première fois depuis 1988. Il avait été désigné pour 2015 avant de demander un report à cause de la propagation du virus Ebola. Mais la CAF avait finalement décidé de lui retirer cette attribution et de disqualifier l'équipe marocaine de la compétition. À Salé, dans le nord-ouest du pays, les fans des Lions de l'Atlas disent ne pas être surpris de l'obtention de l'organisation de la CAN 2025 vu les infrastructures dont dispose le Maroc. Mohamed Larif est un entraîneur d'une équipe de football pour enfants.
Comme tous les Marocains, cette nouvelle tant attendue était évidente pour nous, vu le travail du président de la fédération, M. Fozi Lekia, et aussi du premier sportif, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et aussi vu l'infrastructure dont le Maroc dispose.
Le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie, lui, va permettre à l'Afrique de l'Est de retrouver cette grande messe du football africain, 51 ans après la dernière CAN organisée par l'Éthiopie. Nick Mwendwa, président de la Fédération kényane de football.
C'est fantastique que notre candidature l'ait remportée. L'Afrique de l'Est n'a pas accueilli la CAN depuis 1976. Je n'étais même pas né. Désormais, nous avons une grande responsabilité, beaucoup de travail pour convaincre la CAF d'amener la CAN en Afrique de l'Est en 2027.
Du côté de Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, les habitants y croient. Franck Daoudi est un fan de football.
Je suis très heureux que nous ayons une super opportunité dans nos pays d'Afrique de l'Est, une opportunité que nous n'avions jamais eue auparavant.
La CAN, compétition créée en 1957, réunit tous les deux ans les 24 équipes nationales africaines qui ont validé leur billet au cours de phases qualificatives impliquant les 54 nations membres de la CAF.
C'était au micro Idrissa Seydoudia, à la mise en onde Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.